AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Bonsoir, bienvenue dans la sixième saison du podcast Le Paddock. Mon nom est Pierre-Olivier Doucet, je suis accompagné bien sûr de mon ami Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Michel.
Salut, enfin de retour des vacances.
Ben oui, les grandes vacances, toi. C'est complètement incroyable qu'on soit de retour. On dirait que ça a passé vite, tout ça. Puis en même temps, ben, tu sais, ça a fait du bien. On a eu le temps un peu de s'ennuyer de la F1. Donc, salut Sébastien, bienvenue. Ouais, très content d'être de retour, mon cher, sur le paddock. C'est drôle, il y a des gens avec qui je parlais aujourd'hui qui étaient là déjà, tu sais, ça recommence.
Ben oui,
on est en mars, semaine de relâche puis tout, fait que voilà, on est redécollé le podcast, le paddock. Tu t'es-tu ennuyé un peu de la F1?
Ben écoute, au début, ça fait du bien après une grosse saison de 24 Grands Prix quand même, hein, de décanter, prendre un peu de temps en famille pendant le temps des fêtes. Mais dès janvier, la passion est quand même vite revenue là, quand on a vu de la fumée blanche sortir de Maranello. Puis là, on suivait les premières minutes de Lewis avec Ferrari. Fait que je pense que ça a comme donné le ton vraiment au hype là, de la saison 2025, en fait, qu'on va vivre bientôt. Fait que oui, effectivement, dans les dernières semaines, je commence à avoir hâte. Les premières monoplaces qu'on a vues en piste et tout. Fait que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ont... J'ai hâte d'avoir le feeling du monde aussi un petit peu avec les trois jours d'essai qu'on a eu. Là, ça va être quoi vos impressions cette année. Fait que je pense que c'est cool de se faire un petit. Nous autres aussi, un petit shakedown là, pour se remettre dedans, pour être certain qu'on commence la saison comme il faut.
Oui, on va revenir notamment sur le fameux F1 75, hein, le F1 75 qu'on a vécu du côté de l'Angleterre pour la première année. Salut Michel, on présentait les F1, mais tous en même temps. Moi, je trouve que ça nous a tellement sauvés du temps. Quelle bonne chose! Je te dirais que je suis content de ce retour. Ce sera un calendrier un peu différent cette année. Alors qu'on ne commencera pas à Bahreïn, hein, on était habitué depuis la COVID où on commençait à Bahreïn. On va aussi regarder quelques dates qui seront justement des dates charnières de cette saison-là. Puis bien sûr qu'on va revenir, comme tu l'as dit, sur les essais hivernaux. À commencer avec ce que lancé la saison, tu l'as mentionné pour Lewis Hamilton qui est arrivé chez Ferrari. On surveillait ses premiers pas. Écoute, Jean-Mich, c'est sûr et certain qu'il y avait un hype avec ça. C'est sûr qu'on avait hâte de voir Lewis en rouge. Il faisait un petit bout hein, qu'on l'attendait depuis l'annonce, pratiquement à la mi-saison l'an dernier quand même, ce qui est complètement énorme. Là.
Ben, ça fait un an, en fait, qu'on l'attend. Hein. C'était la grosse nouvelle du printemps passé, avant le début de la dernière saison. J'ai vu Sébastien qui me mentionnait que je buguais un peu. C'est-tu plus au niveau de la vidéo?
Oui, je pense que c'est la vidéo de temps en temps. On perd peut-être une ou deux secondes. Là.
OK. On va essayer peut-être de régler ça. Ouais. Des fois, on a trop de couches de sécurité sur notre ordinateur. Ça fait que ça nous empêche de bien faire peut-être certaines autres choses. Donc, effectivement, comme je vous disais, là, ça fait quand même un an qu'on attend de vivre ce moment-là. Fait que je pense que le Ferrari a été à la hauteur aussi, justement, de l'événement, de la manière qu'on a présenté Lewis Hamilton. Écoutez, présentation devant la maison de Enzo Ferrari. Lewis aussi qui adopte un style beaucoup plus classique, un petit peu à l'image de Ferrari, moins éclaté que ce qu'on est habitué de voir. Par exemple, quand il était chez Mercedes, donc c'est tout qu'un hype. Là. Juste voir les gens qui étaient là pour voir ses premiers tours de roue à Maranello, c'était complètement fou
écoute,
de voir
y a
ça
des gens, il y a des gens qui ont scié un arbre, là, tu sais. On avait
oui,
vu
ouais.
ça. Là.
C'est un peu colon, là, mais bon.
Oui. Salut Étienne, bienvenue. Ouais, ça, c'était une des choses qu'on attendait beaucoup là, du côté de Ferrari. Également, on vous l'a dit à la fin de la dernière saison, parce que j'étais en train de l'oublier, là, mais nos commanditaires sont de retour cette année.
Yes.
Cette année, ils sont de retour. Donc, Habitat Boréal, location de chalet. J'ai eu l'occasion de passer le début d'année là-bas, dans le chalet du pêcheur, avec un magnifique spa. Écoute, c'était vraiment le fun. Ils sont sur la coche en Mauricie. Habitat Boréal, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr sur leur site web. Et on a la microbrasserie Opéra qui est de retour. Je suis allé manger là vendredi. Ça faisait un petit temps, je n'étais pas allé manger. Excellente pizza au canard. Tu sais, à l'ardoise, il y a tout le temps quelque chose un petit peu plus fancy. C'était délicieux. La bière était très, très bonne. Puis, t'es passé à la shop, c'est jeudi, ben, vers la fin de la semaine passée, dans le fond, si je ne me trompe pas.
Tout à
fait. T'es allé chercher la petite nouvelle lager noire tchèque de l'opéra. On dit la Timavé Pivot, c'est ça?
Exactement, c'est ce qu'on me dit. Au début, il y avait beaucoup de gens un peu comme moi qui s'enfargeaient dans le titre.
Ouais.
Timavé, on ne savait pas trop comment prononcer, mais je me suis fait dire par Martin qui était au bar là-bas que c'est la Timavé Pivot qui va remplacer, je crois, dans leur gamme la Stout, qui était quand même un classique depuis un petit bout. Mais honnêtement, c'est délicieux, puis je pense que ça va être un excellent produit pour prendre la relève de la star.
Ah ouais, ben jusqu'à présent, je l'aime beaucoup. C'est mon genre de bière, de lager tchèque noir. Donc, on voit les fameux lions tchèques, là, bien sûr. Donc,
moi, je montre mon beau verre top papa que j'ai eu à la fête des pères cette année.
Wow, c'est magnifique. Allez, salut Simon, bienvenue. Salut Marie-Ève, trop le fun que tu sois là. Salut Alain, il est là. Nice, you're back! Oui, on est de retour, mon ami. On va jaser de F1, bien certainement. On jasait justement avant que je me rappelle de nos commanditaires pendant que Francis nous mentionne quelques noms.
Casey Kolchowski. Je sais comment le dire à cette heure.
C'est ça.
Un joueur de Rivière-du-Loup, petit insight du hockey.
Ouais, exactement. On parlait un peu de Ferrari avant que j'oublie les commanditaires, fait que là, il a fallu que je les renomme. C'est le premier show, hein. Je pense qu'on est un petit peu rouillé, c'est des choses qui arrivent.
En rodage.
C'est le paddock en rodage. c'était ce qui attirait beaucoup l'attention. Il y a eu de nouveaux pilotes un petit peu partout, puis c'est drôle parce que il y a Alain qui dit « Que pensez-vous de Williams avec Sainz? » Ben lui aussi, c'était un début. Parce qu'il quittait Ferrari. Il est arrivé chez Williams. Écoute, il a connu une bonne troisième journée. Au début, je me demandais quasiment s'il était de bonne humeur. Hein. Il prenait les photos, là, puis c'était comme... Tu sais, il faisait le tour, puis tout ça, mais c'était pas mal moins wow que ce qu'on voyait avec Lewis là, chez Ferrari. Donc, peut-être un petit cadeau de consolation pour Sainz, mais Williams se retrouve vraiment avec un excellent duo de pilotes là, pour l'an prochain. Donc, c'est sûr et certain que ce sera très, très intéressant de ce côté-là. Là.
Ben, je suis à la même place que toi. Écoute, ça a été, je pense, la grosse surprise des essais qu'on vient de voir. Puis même de la bouche genre d'Andrea Stella chez McLaren qui dit « Oh, il dit, avec ce que j'ai vu pendant ces trois jours-là, je pense que William peut causer la surprise du midfield. » Donc, de peut-être même passer, dans le fond, la meilleure équipe du midfield derrière les quatre premières. Fait que ça serait un bond quand même assez considérable pour eux autres. Puis ce qui est drôle, c'est que ces deux équipes, en tout cas, selon les premiers échos, deux équipes qui en arrachaient l'année passée, Williams et Alpine, qui seraient les deux les mieux placés pour devenir les meilleurs des autres, si on peut dire ça comme ça.
Exact.
Ça prouve qu'il y en a qui ont fait du méchant bon travail cet hiver et qu'il y en a d'autres qui en ont fait du moins bon. Fait que ça, c'est...
Ouais. Très. Soyons honnêtes, là. On dirait qu'il y a eu de la continuité un peu avec la fin de saison pour ces essais libres-là. On parle peut-être un peu d'Aston Martin où c'est très, très difficile. On l'a vu, ça a été une saison qui nous a déçus un peu. Je pense qu'en essai, c'est la même chose. Steak F1 Team sont restés pas mal à la même place. Alpine avait connu une bonne fin de saison. Williams, c'était correct sans plus, là. Donc, eux autres, c'est le fun, mais tu sais, comme je disais, c'est quand même deux excellents pilotes. C'est un duo qui sera incroyable à regarder dans la saison à venir. Il faut quand même rappeler aux gens que ce sont des essais hivernaux. Il n'y a pas grand-chose qui se gagne là-bas.
Absolument. On ne sait pas les programmes sur les... Dans le fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est émettre des hypothèses un petit peu comme tous les experts essayent de le faire en ce moment, en nous bombardant un peu de statistiques. Là, parce qu'on voit, par exemple, une écurie comme Red Bull qui a quand même... C'est elles qui ont roulé le moins pendant les essais. Fait que, là, on essaye d'interpréter un peu avec les commentaires qu'on entend, par exemple, de Pierre Vacher, tu sais, le concepteur, tu sais, qui mentionnait que, bon, mais ça ne s'est pas déroulé vraiment comme on voulait, on a fait des progrès à certaines places, on plus de misère, mais c'est normal, c'est 3 jours, c'est pas long là, pour évaluer une voiture qui est complètement neuve. T'sais, comme chez Ferrari, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est 95% de la voiture qui est nouvelle, si c'est pas plus.
C'est beaucoup.
Fait que ça prend plus que 3 jours. Fait que je pense que le fait d'avoir roulé pas mal, ça va peut-être avantager certaines équipes qui après ça vont pouvoir analyser toutes ces données-là. Puis ce qu'on a vu à Bahreïn, ben, il y a des chances qu'il y ait des petits changements aussi de ce qu'on va voir dans 2 semaines. Les écuries vont avoir le temps de peaufiner certaines pièces, comme Red Bull qui ont essayé un museau qui était différent la 3e journée. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? C'est des solutions qu'on voulait tester. Fait qu'effectivement, c'est dur de tirer des conclusions, mais il y a quand même des statistiques assez avancées, là, où est-ce que, tu sais, il y a des données GPS, des simulations de tours de course et tout, tu sais, qui ont été faits. Fait qu'il y a quand même une certaine hiérarchie, du moins, qui sont capables d'établir avec ce qu'on a vu. Mais comme tu dis, s'il y a une écurie qui ne roulait pas à fond, ben, ça vient fausser à peu près toutes
exactement.
Les statistiques qu'on a vues, là. Fait que, je voulais juste poser une petite question, ouais. Sébastien. J'ai descendu un petit peu la résolution de mon stream vidéo. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Fait que si jamais tu peux me donner un petit feedback là-dessus, ça serait apprécié. Fait que poursuivons.
Du moins, on est capable de te voir quand même. Puis en tout cas, ça avait l'air moins pire, Jean-Michel. De
même
mon
en
côté,
pas, même moins, en pas HD, je suis beau pareil.
Fait que ben c'est correct, ça, exactement.
Fait que je peux baisser la résolution.
Ouais, je te dirais que pour ce qui est des essais hivernaux, je m'énerve jamais trop avec ça parce que justement, ouais. Tu l'as mentionné, bon, les écuries que. Bon, on amenait beaucoup de nouveaux trucs, d'autres moins. J'écoutais un petit peu des experts à gauche, à droite. Tu sais, j'ai lu un petit peu justement là-dessus, à voir, bon, qu'est-ce que tel ou tel résultat peut dire. Écoute, on était rendu à observer, bah, si les faces étaient longues ou pas. Là. Fait que, tu sais, vous dire à quel point c'est pas vraiment quelque chose de scientifique non plus, les essais hivernaux. J'ai regardé aussi dans les dernières années, bon, les écuries les plus rapides, c'était quand même des écuries qui s'en tiraient bien dans la saison sans nécessairement être championne. Il y a des années où, par exemple, bon, c'est Bottas qui a eu le tour le plus rapide, mais tu sais, c'est Hamilton qui a gagné le championnat, tu sais, des choses comme ça, là, tu sais, plus souvent qu'autrement, c'est sûr que si tu te positionnes quand même bien à ces essais-là, ça donne un bon coup de main. Sauf que Alpine nous avait dit l'année passée, ouais, là, fiez-vous pas trop à ça, là, on va être bon. Là. Ça a pris du temps pas mal avant d'être bon, là, on va être honnête.
Ouais.
Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va tirer des conclusions de ça. J'ai comme l'impression que à partir de la première course, on va déjà voir des choses, mais ça va prendre quand même un peu de temps, puis les saisons sont extrêmement longues. Maintenant, donc, tu sais, dans le bon vieux temps, on disait, on va attendre la manche européenne. Peut-être que cette année, on va regarder ça aussi. Parce que avant ben, de peut-être se rendre là, du côté de, je te dirais, à part Émilie-Romagne, là, on va avoir des circuits un peu plus atypiques, là, si on veut, à part Bahreïn, qui est quand même un bon circuit de test. Donc, ça va être dur de chiffrer une hiérarchie, mais je te dirais que ceux qui m'inquiètent présentement, tu as mentionné le nom de Red Bull. Je pense que ce ne sera pas nécessairement facile pour eux. Ferrari, on a énormément d'attentes. Et Aston, puis, ben, les deux vertes, dans le fond, là, Aston et Stake F1, là, Sauber, ce sera difficile cette saison. Ouais. Ce seraient mes prédictions très, très tôt.
Ben, tu sais, quand Alonso dit, écoute, pour espérer marquer un point, on va devoir faire des week-ends parfaits. Imagine comment que ses attentes sont basses. Tu sais, le gars, déjà que l'année passée, il était comme un peu à terre. Là, il essaye la nouvelle voiture, puis il est comme, ah, sacrement. Ils ont réglé des affaires, mais il y en a d'autres qui ont empiré. Tu sais, finalement, on va être plus loin que l'année passée. Mais tu sais, là, je sais que c'est très embryonnaire. Bonne nouvelle quand même, aujourd'hui, Adrian Newey, premier jour au travail.
Ouais! Ouais.
Mais ça paraîtra pas cette année. Ben écoutez, à moins qu'on lui donne peut-être un petit peu de ressources pour faire 2-3 scratchs de dessin sur la voiture de cette année. En fait, déchirer le dessin.
D'en faire un œuf.
Ouais, c'est vraiment l'année prochaine que ça va se passer. Fait que je pense que du côté d'Alonso, il doit se dire, bon, mais écoute, je vais le mériter, ma bonne voiture, en 2026, parce que là, je vais avoir mangé mon pain noir pendant une couple d'années.
Ouais, ben, et considérant l'an dernier, fort possiblement cette année, puis en effet, là, je pense qu'on vise beaucoup 2026 pour pour ce qui est d'Aston Martin avec l'arrivée de Honda. Je vous rappelle, Honda s'en vient l'an prochain. Ceux qui suivent, nous suivent en masse, vous devez savoir que c'est la dernière année d'une réglementation. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, puis qui suivent les courses, puis qui aiment les résultats, mais l'an prochain, ce sera une nouvelle réglementation. Donc, les F1 ne se ressembleront pas vraiment. Donc, nouvelle réglementation, ça veut aussi dire nouvelle opportunité. Il y a des écuries qui vont lâcher le concept 2025, peut-être un petit peu plus tôt, en voyant que ça mène nulle part. Surtout si des écuries comme Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes tirent pas mal de leur côté de couverture. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui vont aller se magasiner 2026. Ce qui est plate un peu, c'est justement...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
On peut en compter deux. Puis encore une fois, c'est les deux voitures vertes. Là. Ouais. On peut compter Sauber qui va devenir Audi. Puis on peut compter Aston Martin qui va complètement changer de cap avec Honda et l'arrivée, comme tu viens de dire, d'Adrian Newey. Et toutes les installations pour les gens qui suivent le paddock depuis une couple de saisons. Je pense que Jean-Michel vous a rapporté à peu près tous les investissements que Lawrence Stroll a fait du côté d'Aston Martin, tout ça. Donc, je me dis que eux, il va peut-être falloir les oublier pour la prochaine saison. Puis c'est peut-être là qu'on va voir Williams bien performer et Alpine aussi. Alpine qui sera à sa dernière année avec le moteur Renault, parce que l'année prochaine, ce sera Mercedes. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui vont bouger. Cependant, ben, chez Alpine, le point d'interrogation, je pense, c'est Jack Doohan. Parce qu'on va jaser un petit peu des petits nouveaux. Tiens, Jack Doohan, il y a déjà des rumeurs que Colapinto pourrait s'en venir à sa place.
Ben, je pense que c'est pas pour rien qu'on l'a signé. Puis, je sais pas si vous avez écouté la bande-annonce de Drive to Survive, mais il y a une cut où est-ce que Flavio il dit « Je contrôle chaque millimètre de comme quasiment de ta vie » là, en parlant à Jack Doohan, en voulant dire « Tu fais un seul faux pas, puis il y a l'Argentin en arrière qui est prêt à prendre le relais. » Puis je pense que c'est sûr que c'est ça le plan de match. Là. Puis ben c'est oui. Plate pour Doohan. On l'amène, on croit en toi, puis il y a Colapinto qui devient disponible. On l'engage au cas où. Puis je pense qu'il y en a un autre aussi dont le nom m'échappe par contre, là, qui avait engagé aussi. Puis Flavio Briatore, lui, ce qu'il mentionne, c'est qu'écoute, nous, on a quatre pilotes. Le but, c'est d'avoir le meilleur duo. Fait que en voulant dire, je peux jouer avec les combinaisons. Ouais. C'est un petit peu plat. Je pense pas que Gasly.
Non.
Gasly doit bien dormir la nuit, là, mais. Pour le jeune Doohan. Puis, c'est pas bon, tu sais, de commencer comme mais ça non. Avec une tonne de pression, puis en sachant déjà que tu es sur un siège éjectable. Je pense pas que c'est les bonnes conditions. Tu sais, je pense que même cette année, Antonelli chez Mercedes va être d'un environnement qui va être pas mal moins. Il va avoir pas mal moins de pression, je pense, que ce que Jack Doohan va pouvoir ressentir. Mm-hmm. Tu sais, chez Mercedes, on le sait que c'est le futur. Ça va prendre du temps. On s'adapte et tout. Mais là, clairement, le pauvre Doohan, c'est un Australien aussi, je pense. Hein. Je pense que c'est un autre représentant de l'Australie aussi. Fait que...
Écoute, je vais aller valider là. Un pilote automobile ouais. Australien, oui. Membre ouais. de la Alpine Academy depuis 2022.
Fait que ouais. C'est ça. T'sais, c'est pas. Le contexte n'est pas super. Puis je pense qu'en plus, en tout cas, du moins de ce qu'on a vu dans les derniers Grands Prix l'année passée, t'sais, le Brésil qu'on avait eu le doublé et tout. Fait que ils ont vraiment fait une belle fin de saison. Ben, en fait, c'est un petit peu quand. Quand le bon vieux Flavio est arrivé, il a fait le ménage, il a remis sa douette, comme on dit, puis je pense que il y avait beaucoup de politique ou de gens peut-être qui n'avaient pas d'affaires trop. Là, fait que je pense qu'on est revenu à la base qui est de faire des courses, puis c'est pour ça qu'on s'est peut-être débarrassé du moteur Renault, parce que je pense que oui, il y a une mission de remettre l'écurie sur les rails, mais il y a une mission de réduction de coûts aussi qui doit être derrière ça, parce que ça doit quand même être un programme qui n'est pas donné, construire... un moteur. Fait que moi, j'ai plein d'espoir pour Alpine. Vraiment, on commence pas mal mieux cette année que l'année passée où est-ce qu'on avait comme quasiment 2 secondes de retard.
Non, ça n'avait pas de sens.
C'était atroce. Fait que moi, j'ai un bon feeling, j'ai un bon hype pour Alpine cette année. Puis je leur souhaite, j'aime ça voir Gasly gagner. Puis c'est un pilote que j'aime bien.
Salut à Mathieu Véraud qui nous dit content de vous revoir, les gars. Bonne saison à tous. Ben, bonne saison, mon ami Mathieu. Salut Cédric. Salut Anthony Lapointe également qui est là. Salut Anthony Ménard. Ben oui, manquait un gars. Manquait un Anthony. Salut mon homme. Bienvenue. Mettez-vous bien. On jase des recrues, justement. On a parlé un peu de Jack Doohan, sa situation. On a effleuré un peu Antonelli, qui a quand même très, très bien fait. Là. Je regardais analyse et résultats. Semble s'être bien débrouillé, le jeune qui sera chez Mercedes cette année. Donc, c'est un petit nouveau qu'on amène, un jeune pilote. C'est quand même une bonne marche, mais Mercedes est peut-être dans la bonne fenêtre pour faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas au top comme on l'était. Je trouve ça intéressant. Je le trouve le fun. J'ai hâte de le suivre. Je le connais très peu. Puis, je pense que ce sera assez intéressant de le suivre. Lawson est un... Tu sais, recrue pour recrue, là. Il a déjà piloté un peu, donc il a de l'expérience. Lui, j'ai hâte de le voir avec Red Bull, parce qu'on a pris quand même un pari audacieux. Est-ce qu'on se dit, bon, l'association avec Honda tire à sa fin, fait qu'on n'a pas besoin de faire plaisir à Tsunoda, on le laisse chez Racing Bulls ou V-Carb, ou appelez-les comme vous voulez, qui ont la plus belle livrée de l'année 2025. Ouais. Soit dit en passant, là, ça a été voté par les fans, mais c'est vraiment la plus belle. La Visa Cash App, là. Ouais, c'est magnifique, là, vraiment magnifique. Eux aussi ont un nouveau pilote là, du côté de chez RB là, qui a. Comment, c'est quoi son petit nom déjà?
Isaac Hadjar,
c'est ça. C'est
un autre Français. Oui! On a 3 Français en Formule 1. Fait que, ça commence à se concentrer sur certaines nationalités, les Britanniques, les Français, les Australiens.
Bon, on a notre fier représentant canadien, Lance Stroll. Ouais. Qui n'est plus avec sa blonde Saguenayenne, soit dit en passant, là, ouais.
Ouais, on a vu ça, là, sur les Instagram. Mais écoute, c'est pas grave. Ben, pour le Canada, on a vu passer la semaine passée aussi, une jeune pilote qui s'en va à F1 Academy. Fait que, tu sais, c'est quand même cool d'avoir des petites nouvelles de ce côté-là aussi, d'avoir une représentante là-dedans. Mais effectivement, Lens, ça, c'est pas... on le sait, hein, on s'en va, c'est la 8e année. Fait que je pense qu'on va tenir le même discours que les années précédentes.
Ouais, exactement.
On va admirer ses bons flashs, mais cette année, avec la voiture qui risque d'avoir, pas sûr qu'on ça va flasher souvent.
Un qui pourrait être intéressant cette année, c'est Oliver Berman. On se souvient qu'il avait remplacé Carlos Sainz à Jeddah l'an dernier.
Oui.
Il avait fait aussi une course avec Haas quand c'était c'est Magnussen qui avait dépassé ses points, là, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Il n'est pas pire non plus, le jeune.
Ben, la course, c'est ça qui avait remplacé Sainz. Je pense que c'était pour sa fameuse opération de l'appendice. Là.
Oui, exact.
Tu sais, à Jeddah, c'était vraiment pas facile de faire son baptême de feu de la F1, là. Mais il avait quand même réussi avec brio. Je pense que c'est ce qui a permis de décrocher le volant chez Haas aussi. J'adore le duo qu'on va avoir chez Haas cette année, écoute, avec Behrman, puis avec Ocon aussi.
Ben oui!
Puis l'année passée, quand Haas a amené, ils n'ont pas amené énormément d'améliorations, mais les fois qu'ils l'ont fait, ça a fonctionné. Ils ont eu une belle fin de saison. On voit que le budget est en hausse aussi. Écoute, là, on n'arrête pas de nous montrer qu'ils passent d'un demi-muret des stands à un complet avec 6 bancs. Fait que, tu sais, déjà là, en partant, on voit que M. Gene Haas a sorti les sous pas mal. Mais je pense que ce qui les a aidés aussi, s'ils ne veulent pas, en terminant leur position au classement, ben ça s'accompagnait de sous qui venaient avec ça, de millions de dollars supplémentaires. Fait que, tu sais, si on a bien réinvesti ça dans l'écurie, j'ai hâte d'avoir. Ocon semble super content. Il dit, écoute, c'est la première fois qu'on m'écoute comme ça. J'ai demandé... je pense qu'à un moment donné, il disait, écoute, j'ai demandé qu'on change le volant. Il y avait des affaires que je n'aimais pas. Il dit, ça a pris un mois. Il dit, ailleurs, en parlant de son ancien employeur, je ne suis même pas sûr qu'on l'aurait fait. Donc, il dit, si je suis écouté, je demande des choses, on me les donne, je donne mon opinion sur la voiture. Puis, je pense qu'il y a une ingénieure qui va être avec lui, qui est féminine aussi, qui vient d'être nommée avec lui. Fait que non, moi, pour vrai, j'adore le line-up de pilotes chez Haas cette année. Ça va faire changement de l'ami Hülkenberg
Ah ben oui.
Et K-Mag. Là, pas qu'on les aimait pas, mais Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une saison avec de la jeunesse comme ça. La dernière, je pense, c'est quoi? L'année de Norris, Russell et compagnie. Mm-hmm. Là. Albon, je pense.
Ouais, je pense que oui.
Ça fait quand même un petit bout.
Ça fait un petit bout. Bon, t'as parlé d'Hulkenberg. Lui, va avoir un jeune coéquipier aussi chez Kicksauber ou Steak, ou appelez-le comme vous voulez, l'autre voiture verte. c'est un Brésilien. Il s'appelle Gabriel Bortoleto. Donc, lui aussi serait intéressant à voir, mais en même temps, on ne peut pas s'attendre à grand-chose parce que fort possiblement qu'il y aura dans les mains une des pires voitures de toute la grille. Je te dirais qu'une chose intéressante cette année, on a mis des LED sur les roues pour voir quand ils sont vissés ou pas. Fait que c'est ça, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je ne m'attends pas à grand-chose de eux. D'après moi, on est vers le programme Audi, puis on s'en va vers quelque chose plus de... On va prendre notre année de misère, là, puis on va essayer peut-être de faire une petite affaire à gauche ou à droite. Écoute, j'ai pas grand positif à dire de cette pauvre écurie. Homme-là, en tout cas, j'y souhaite bonne chance. Là, j'y souhaite tout le succès. Là.
S'il y a une meilleure manière... Je pense que c'est la meilleure manière, en fait, d'entrer en Formule 1 et de ne pas avoir de pression, c'est d'être dans cette écurie-là. Genre, comme nous... On s'attend pas mal à finir dernier. Fait que, tu sais, casse pas des voitures, mais accumule les tours, puis prends de l'expérience. Puis quand Audi arrivera en 26, ben on verra. Mais on l'a dit aussi l'année passée, c'est ça un peu beaucoup qui nous inquiète, en fait. Fait que, tu sais, ça reste comme, même si c'est Audi qui rachète, c'est la même structure qui va développer l'auto. Ça se passe encore en Suisse, les mêmes équipements. Hein, je ne verrais pas pourquoi que si tu engages un autre ingénieur qui va peut-être mieux les utiliser. En tout cas, moi, c'est ce bout-là qui m'inquiète bien gros. Là,
ouais, moi aussi, je me dis, Colin, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose de bon avec eux? En tout cas, le projet Audi, puis tu sais, on a vu une couple de problèmes aussi avec le groupe Volkswagen puis tout, donc ouais,
ça va pas bien là. Il faut qu'ils coupent des milliards de dollars là. C'est comme un peu en contradiction avec il y avait des reportages à la télé, on disait que du côté de l'Allemagne, pour la première fois depuis l'existence du constructeur, on veut fermer des usines et mettre à pied des dizaines de milliers d'employés, puis d'un autre bord t'as investi comme plusieurs centaines de millions pour t'acheter une écurie de F1. C'est un drôle de message.
Peut-être qu'on était pris dans l'engrenage aussitôt que ça a été acheté aussi. Là. Mais ça a branlé dans le manche pas mal.
Ça a été long. C'est vrai que ça a été long avant de compléter. Mais tu sais, puis en F1, on sait que les choses arrivent quand même assez rapidement. La dernière crise financière, Honda a vendu son écurie pour une pièce, je pense, à Ross Brawn, quelque chose comme ça. Là. Mais tu sais, c'était juste pour dire qu'on sauvait les meubles. Fait que tu sais, si ça continue à mal aller comme ça... Peut-être qu'ils peuvent être vendeurs, mais en même temps, ils sont engagés dans un programme moteur. Comme tu dis, ils ont les deux mains dedans. Là, c'est dur de sortir de là, mais je vois... Je sais pas, je regarde la structure, puis je sais pas. T'sais, contrairement à Aston Martin, que tout est neuf, ils ont engagé le génie.
Oui.
Puis les autres, ils ont Mattia Binotto puis un ancien de chez McLaren qui ont licencié ou remercié. Fait que, tu sais,
j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner.
J'espère que Cadillac les dépasse. Ça serait comme gênant de se faire dépasser un peu par Cadillac motorisé par Ferrari en 26 par 27. Ouais. Mais en même temps, Andretti était déjà sérieux. Il avait déjà une maquette de voiture qui roulait en soufflerie. Fait que, tu sais, je serais peut-être même pas surpris qu'il performe mieux qu'eux autres l'an prochain. Puis de toute façon, c'est nouveau. Fait qu'on tire les dés l'an prochain. C'est celui qui aura mieux compris la réglementation. Ce qui semble se dessiner aussi, puis les commentaires qu'on entend, c'est que 2026, ce sera le manufacturier, ce sera une génération de moteurs, semble-t-il, avec le fait qu'il faut au moins 50% d'énergie électrique. Ce qu'on dit de plusieurs écuries, c'est que le manufacturier qui aura construit le meilleur moteur devrait être avantagé de pas mal. Fait que,
ça sera intéressant
à voir. C'est pas encore tout à fait ficelé à 100% encore. Les écuries redemandent des choses à la FIA de modifier. Fait que on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais c'est un des plus gros challenges dans l'histoire de la Formule 1, ce qu'on mentionnait, cette réforme-là avec l'aérodynamique active et tout. J'ai bien hâte de voir ça.
Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. C'est sûr et certain que on a déjà du hype pour cette saison 2025. Salut Simon-Pierre au passage qui est là. Salut, SP. Tu sais, les quatre top teams peuvent faire de quoi d'intéressant. Fait que je ne sais pas qui va vraiment tirer son épingle du jeu. Ben, c'est sûr que McLaren est là. Je pense que McLaren devrait être au top. Fort possiblement que Ferrari ne sera pas trop loin, mais on connaît Ferrari, on est capable du meilleur comme du pire. Red Bull, je pense qu'il va falloir encore mettre tout ça dans les mains de l'ami Max Verstappen. Parce que Liam Lawson, je ne crois pas qu'il ait une saison hors norme. Je pense qu'il va être correct sans plus. Mais le meilleur duo avec la meilleure voiture va fort possiblement être la voiture de l'orange, la voiture McLaren. Parce qu'on a des pilotes qui commencent à gagner en expérience avec la meilleure voiture. Parce que sinon, c'est sûr qu'un Hamilton full expérience avec Leclerc, qui en a beaucoup aussi, c'est un des meilleurs duos de la grille. Je pense que où j'ai peur un peu, c'est que McLaren semble avoir trouvé la recette de cette réglementation qui est apparue au début de l'année de la saison 2022. Donc, on pensait que Red Bull allait tout rafler, tout gagner, mais je pense que McLaren part au moins avec un bon pas d'avance là, pour cette nouvelle saison 2025. À voir si on va avoir des problèmes, à voir si Red Bull et Max Verstappen vont être capables d'aller gratter justement assez de points pour peut-être laisser passer Ferrari, qui en fin de saison aurait pratiquement pu terminer deuxième. Fait qu'on a eu quand même aussi des ennuis chez McLaren sur certaines pistes aussi. Peut-être un petit manque d'expérience qu'on est allé gagner l'an dernier pour ce qui est de Lando Norris. Donc, d'après moi, là, les quatre premières écuries, c'est sûr que c'est eux autres. C'est Mercedes, c'est McLaren, c'est Ferrari, c'est Red Bull. On nous pose la question, Red Bull va-t-il avoir le même moteur en 2026? Non, ce sera un Red Bull powertrain, mais avec Ford, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on n'est plus avec Honda.
Oui, effectivement, on va venir les aider pour ben, en fait, depuis l'année passée, je pense, c'est techniquement Red Bull powertrain, mais tu sais, on a racheté la propriété intellectuelle d'Honda. Puis, genre, tu sais, un peu des fois comme ils font dans des business. Tu sais, Honda est parti, mais on a engagé tout le monde, puis on a appelé ça Honda Racing Company, HRC, qu'on voit sur la voiture. Là. Fait que, en tout cas, c'est plus au niveau administratif, je pense que ça se passe.
Parce que
ça,
pour
te dire que c'est le même monde en ce moment, mais ça va être tout nouveau, comme PO a dit en 2026. Mm-hmm. Puis, la part de Ford va venir les aider, semble-t-il, beaucoup au niveau de la partie électrique, parce que ce qu'on disait, c'est que plus de 50% de la puissance va provenir de l'électrique. Fait que j'ai bien hâte de voir ça.
Ouais.
Qu'est-ce que ça va faire l'an prochain? C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est probablement une régulation de motoristes qui s'en vient pour les prochaines années en Formule 1. Donc, ça sera quand même très cool à voir. Puis écoute, je suis pas mal à la même place que toi aussi pour le top 4. Je pense que McLaren a encore l'avantage. Puis contrairement à l'année passée, on ne décollera pas à Miami. On va décoller en Australie. Fait que pour le beau Max, je suis pas prêt à gager un gros 5$ qui peut remporter un autre titre cette année.
Non,
à moins qu'effectivement, il y a des cachettes qui peut-être soient faites comme on a déjà vu dans les grosses années de Mercedes, mais on dirait pas que depuis la nouvelle réglementation, ça se voit vraiment. Tu sais, dans les dernières années, Red Bull était quand même confortablement à l'avant. Mm-hmm. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on a presque fait 150 tours de moins dans les trois jours que Mercedes, je pense, qu'en a fait le plus. Fait que ça, c'est peut-être un petit point d'interrogation pour moi, mais Max est capable de compenser certaines lacunes de la voiture. Comme tu as dit, Ferrari, capable du meilleur comme du pire, mais il y a un gros hype, puis je ne ferais pas que la pression de Lewis Hamilton devienne trop grosse non plus. Mais écoute, j'ai confiance en mon pote Fred. Fred Vasseur, écoute, c'est mon boy. Lui et l'ami Zach, c'est mes deux préfs.
Ouais.
Fait que j'ai confiance. Puis Mercedes, ben, c'est toujours énigmatique parce que, en plus, à Bahreïn, je ne sais pas si vous venez l'année passée, les seules fois qu'on a dominé, c'est quand il faisait fret.
Oui.
Normalement, on va à Bahreïn parce qu'il fait chaud, mais là, il a fait fret, puis il y a eu de la pluie. Fait que Mercedes, écoute, est-ce que les résultats qu'on voit là, c'est la réalité ou c'est tout qui va commencer à faire chaud un petit peu plus, la voiture conservera pas aussi bien ses pneus? Fait qu'eux, ils ont un gros point d'interrogation dans leur tête parce que c'est vrai que l'année passée, les seules fois où Mercedes était très dominante, c'est dans les conditions fraîches. Fait que, parce que là, on a tout vu, on a vu de la pluie, on a vu des températures en bas de 20 degrés. Tu sais, normalement, à Bahreïn,
oui,
il fait 30 degrés la nuit, là. Fait que, puis on avait un autobus aussi.
Oui, sur la piste.
Ouais, ça, la FIA est en train d'enquêter là-dessus. Donc, j'ai, puis écoute, ça, comment un autobus a pu accéder à un échappatoire?
On pense peut-être que c'est Sergio Perez qui tentait un retour en F1. Là. Ouais, c'est peut-être ça.
Je ne sais pas, mais écoute, j'en profite pour te faire une petite parenthèse, FIA.
Oui,
je me suis renseigné aujourd'hui, puis les élections d'un président, semble-t-il, que c'est pour 4 ans. Donc, il a commencé en 2021, puis là, avec toutes les conneries qu'il est en train de faire pour donner des grosses amendes aussitôt que tu vas dire fuck off ou des affaires de même, là on commence à voir des articles popés avec Suzy Wolf qui se lancer dans la campagne pour être à la tête de la FIA. Ah, Maven, c'est pas fin, ça, de dire que Verstappen il y a quand même quatre titres consécutifs, là. Fait que c'est quand même dans la catégorie des grands.
Oui,
là.
C'est ça. Ouais.
Écoute, c'est pas mon préféré. Pas. Moi, je suis Team Lewis, mais je dois quand même reconnaître que Verstappen est un pilote exceptionnel aussi. Quand comme plus, il nous l'a montré au Brésil cette année.
Fait oui, que... c'est ça. Quand même plus World Champion que nous. Et fort possiblement toi. fort possiblement, là, je dis ça, je dis rien. Je salue Oli Simard au passage. Donc, oui, tu disais pour la FIA,
c'est un mandat de 4 ans.
OK.
Un changement de garde serait probablement apprécié de ce côté-là, parce que là, tout ce qu'on voit, c'est des restrictions, des libertés un petit peu depuis que ce monsieur-là est en place. Là, on se dit, on passe même peut-être à enlever les conversations, par exemple, dans les reportages télé. Écoute, c'est ce qui fait, voilà, c'est cool fait d'écouter la F1, c'est le show, c'est ça. Mmh. Fait que lui, il travaille un petit peu contre le show, mais j'ai l'impression que ça doit quand même brasser pas mal avec Liberty Media qui, c'est le show qui leur rapporte de l'argent.
Oui.
Fait qu'écoute, ça sera à voir, mais présentement, c'est pas l'homme le plus apprécié, je te dirais,
non, dans l'état
de la Formule 1. Là.
Te parler de la FIA, par exemple, on a amené quelque chose d'intéressant pour ce qui est de Monaco. Hein. Il va avoir deux, ce qu'ils appellent les mandatory pit stops, donc des pit stops obligatoires. Oui. Donc, il va en avoir deux du côté de Monaco pour avoir un meilleur spectacle.
Oui, ben enfin, hein? Parce enfin, que là, on sait que Monaco a renouvelé en plus pour quelques années, fait que au grand peut-être désespoir de comme moi. Écoute, je sais que c'est prestigieux et c'est comme mais c'est pas adapté aux voitures d'aujourd'hui. Peut-être qu'avec les 2026 qui vont être moins larges, moins longues, moins lourdes, peut-être que ça va redevenir plus intéressant. Mais écoutez, une course quand il n'y a pas de dépassement, c'est atroce. C'est vraiment plate. Mais ça, c'est quand même une bonne mesure pour améliorer le spectacle. Fait que ça, je pense que pour tous les fans de Formule 1, ben, on peut être satisfait de ce côté-là. Fait que au moins, le souhait de Pierre-Houd va être exaucé.
Oui.
Puis, honnêtement, ça devrait quasiment être ça partout. Les trois types de pneus. Vous devez utiliser les trois types de pneus. Deux arrêts obligatoires partout. Fait que, tu sais, là, ça mêlerait les stratégies pas mal.
C'est
là. Fait que, puis peut-être que ça forcerait Pirelli à faire des pneus plus performants aussi. Tu sais, une dure, au lieu qu'on la conçoit pour durer 40 tours, ben là, peut-être qu'on la conçoit à 30. Fait que, tu sais, ça améliorerait probablement les performances. Peut-être que les pilotes aussi iraient moins sur la sauvegarde et la gestion des pneumatiques, plus portés vers l'attaque. Fait que, tu sais, peut-être que ça pourrait avoir un bon côté. Mais c'est un bon début. Peut-être que c'est un test aussi qu'on fait à Monaco, voir comment
peut-être
ça va se
passer.
Puis peut-être si on voit que c'est un succès, mais c'est peut-être une idée qui va germer de leur côté, de peut-être implanter ça, mais j'aime ça qu'on essaie des choses. Ça, c'est le fun.
Oui, ben, ça, c'est une bonne chose, en saluant Jérôme au passage.
Yes.
C'est vraiment une bonne chose, puis je me dis, si on pouvait l'apporter un peu partout, ce serait intéressant, parce qu'on est toujours dans une course, un 10-15 tours qui se passe sweet fuck all, où ce que tout le monde garde ses écarts, tout ça, puis là, hop, on s'étudie un peu, puis on attend peut-être un safety, puis là, hop, OK, on y va. Tu sais, c'est la même chose en NASCAR, c'est la même chose dans d'autres séries automobiles, je comprends, mais fort possiblement que ça pourrait être très, très intéressant d'avoir quelque chose, genre, en tout cas, moi, ça me plairait, et ça va plaire au moins aux gens, parce que Monaco, on s'entend, c'était peut-être pas la course la plus fun. sinon, bon, on a parlé un petit peu du F1 75, c'était le fun de toutes les voir en même temps. On a jasé un petit peu des essais libres. Williams, ce qu'a bien fait à la dernière journée, Carlos Sainz, t'en as glissé un mot là-dessus, parce que c'était très intéressant. Bon, on a parlé de ceux qu'on s'attend à ce que ce sera des déceptions. Parlons un petit peu du calendrier qui change cette année. Vous dire que la première course aura lieu en Australie.
Yes, on revient aux bonnes vieilles traditions.
Je suis content qu'on décolle là. La seule affaire où je suis moins content, c'est l'heure que ça va... ouais, c'est ça, c'est l'heure.
Minuit la course, hein, je pense, c'est samedi soir. Là.
Ouais, exactement, c'est à minuit.
Calife à une heure,
ouais. Ouais, c'est ça. C'est moins facile un peu. Ben, tout dépendant où ce que je suis, tout dépendant de l'heure, mais d'après moi, je me connais, c'est sûr que je vais l'écouter live. Sinon, par la suite, on s'en va en Chine, au Japon, à Bahreïn, où on était habitué de commencer justement la saison. Bahreïn va avoir lieu du 11 au 13 avril, donc c'est un petit peu plus tard, suivi de l'Arabie Saoudite. On vient pour la première fois aux États-Unis en mai, avant de retourner un petit peu en Europe. Donc, Émilie-Romagne, ça se passe à la mi-mai, vers la fin du mois de mai. On a Monaco et bien sûr l'Espagne. Le Grand Prix du Canada cette année, du 13 au 15 juin. Par la suite, bien sûr, on s'en va en Autriche, en Grande-Bretagne et en Belgique. Et la Belgique va être c'est l'Hongrie qui va faire en sorte qu'on va avoir une pause. Pour ce qui est des Pays-Bas, c'est le dernier Grand Prix, je pense. Je pense pas qu'on vienne après, si je me trompe pas. Un qu'on aime beaucoup, Monza, va avoir lieu au début du mois de septembre. Par la suite, on va aller en Azerbaïdjan, Singapour également. Et on revient là pour l'espèce de séquence un peu ici aux États-Unis en octobre, mi-octobre. On a le Mexique 24-26, un petit peu avant l'Halloween. En novembre, on a le Brésil et Vegas. Le Qatar se passe à la fin novembre et la saison va se terminer le 7 décembre, bien sûr, à Abu Dhabi.
Là, on n'aura plus le 3 semaines l'année passée qu'on avait eu. Là. Fait que ça, au moins, ça a été. On n'aura plus l'équivalent de deux pauses estivales presque. Là. Fait que ça devrait être bon.
Oui, oui, oui. Puis, tu sais, on me dit en effet là, que pour ce qui est de l'Australie, là, c'est pour l'empreinte écologique. En effet, c'était tellement con. Là. On partait d'un continent à l'autre, on virait de tous les bords. Puis, je pense que dans l'avenir encore plus lointain, on veut encore plus réduire ce genre de déplacement où, tu sais, on se mentira pas, là, on part de l'Espagne pour s'en aller au Canada, puis après, se retourner en Autriche. Puis là, whoop, à un bon moment donné, on vient, tu sais, aux Pays-Bas.
Ouais, c'est pour ça qu'on se promène un peu. Amène le Canada fin mai, hein, si je ne me trompe pas, à partir de 2026.
Ouais, fait fin mai.
D'après
oui,
moi,
c'est
on
ça.
Va le mettre après Émilie Romagne. Mais tu sais, il y a encore Émilie Romagne
même
qui est comme.
Avant.
Ouais, j'ai hâte de
voir. Peut-être
qu'ils
vont le switcher, par exemple, Jean-Michel. Peut-être qu'ils vont rajouter comme une petite course quelque part avant le Grand Prix de Miami, où il va peut-être avoir un 2 semaines.
C'est ça, il faut que ça soit Miami-Canada.
Ouais.
Puis après ça, tu sais, on. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais tu sais, moi, je le vois pas mal, le Canada, dans le coin d'où est-ce qu'il est Monaco présentement. Mm-hmm. Fait que tu sais, ça ferait avancer tout ce monde-là d'une case, mais c'est vraiment. C'est Émilie Romagne. Mais en 2026, il se pourrait fort bien qu'il n'y ait plus deux Grands Prix en Italie.
Ouais,
non plus,
c'est
là.
Ça.
On est en train. Là, on a déjà commencé à annoncer, je pense, des alternances avec Spa, si je me trompe pas. Puis, en tout cas, ça va être à voir.
Beaucoup
là,
de
mais,
dossiers, ouais.
Oui, ben c'est ça. Là, il y a comme plus de demandes que ce qu'on a de cases de disponibles. Fait que je pense que ça. Écoute, ben c'est une bonne nouvelle pour la F1, mais les systèmes d'alternance, moi, je trouve ça poche un peu. Là. C'est
moi
surtout
aussi,
pour
là.
Les promoteurs. C'est comment on se donne rendez-vous dans 2 ans.
Ouais,
mais c'est le marketing,
non, c'est
live. C'est pas. En tout cas, c'est pas. C'est pas mon setup
surtout
préféré.
Qu'on,
là, mais...
Surtout qu'on en a 3 aux States, là, je comprends. Là. C'est dans des états bien différents. Là.
Mais quand même, ça fait quand même 3 aux États-Unis. Fait que, écoute, on verra comment ça va évoluer pour l'an prochain. Mais ça va être
cool de voir
le Canada à la fin mai.
Ouais, je vous rappelle que pour ce qui est d'Émilie Romagne, on l'a ajouté avec la COVID.
Effectivement.
Fait que, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir quel type de saison on va avoir. Mais pour vous dire, pour ceux qui trippent F1 en direct, là, ce ne sera pas un mois de mars facile, ni un début avril facile. Parce que, tu sais, la Chine, c'est pas bien mieux dans les heures, là, on va être honnête. Là. La course est à 3 heures du matin, les qualifs, et en plus, c'est un sprint. Fait que t'as un sprint quand même qu'on peut écouter le 21 mars. C'est quoi ça, le 21? Le 21, c'est un vendredi soir? Ouais, OK. Fait que le sprint a lieu, il a lieu à 23 heures. Donc, tu sais, mettons vendredi, t'as pris une petite bière ou deux, c'est pas pire. Mais je pense pas que tu écoutes la qualif à 3h du matin, à moins que tu sois sorti au bar. Puis le lendemain, ben, la course va avoir lieu à 3h du matin. Wow. La Chine, 3h, c'est tough un peu. Je vais aller voir le Japon juste pour le fun là, pendant qu'on est là-dedans. Tu sais, le Japon, c'est dull un peu, c'est à 1h, mais je vous dirais que c'est quand même pas si pire que ça, là, 1h, mais ça fait un peu CHIR, ouais. Parce qu'il faut pas trop sacrer avec la FIA. Après ça, on vient à Bahreïn dans des heures qui ont du bon sens. Tu sais, la qualif le samedi à midi, la course à 11h, ça, on adore ça. Puis, tu sais, l'Arabie Saoudite, c'est à 1h. Tu sais, fait que là, on vient après ça, là, Miami, Émilie-Romagne, Monaco, tout ça, ça a toujours un peu plus de bon sens pour nous autres. Fait que on se clenche la bouette du décalage horaire au début, puis après ça, ben, on va bien vivre, je pense, là.
Ben, ça devrait être quand même pas pire, là, mais c'est ça, moi j'étais un petit peu à la même place que toi pour ça. Là, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer, là, mais c'est ça. C'est sûr que c'est moins d'adon un peu pour nous autres, mais veux pas, la Formule 1, c'est mondial. Fait que, il y a des gens pour qui c'est correct. Mais bon, je pense que ça arrive comme quoi, deux fois, trois fois peut-être dans l'année où est-ce qu'on a des courses un petit peu plus la nuit comme ça.
Oui.
Fait que, en tout cas, c'est pas... anyway, le lendemain matin, je pense que la reprise à 7-8 heures. Fait que c'est quand même pas si pire. Ou sinon, faites comme moi. Vous l'enregistrez pendant la nuit. Puis quand vous levez, vous partez ça. Mais faut pas regarder notre Facebook. Ça, c'était un petit peu plus dur.
C'est ça. Combien de fois pensez-vous que Verstappen pogra les nerfs pendant la saison? Lauriane, je pense plusieurs fois. Je pense que ce sera pas nécessairement facile. Et tout dépendant du choix du producteur. Parce que... je pense que Yuki est un bon pognon de nerfs que maintenant on a slacké. fait que je ne sais pas. Simon, es-tu vraiment en train de nous regarder pendant le match? Ben, ça a l'air d'être ça. En direct du Centre Bell, 3-1 Montréal. Solid game, go Habs, go. Je pense qu'il est comme venu nous dire salut pendant le match. Ah, ben, à moins qu'il nous rapporte ce qui se passe avec le CH. Là. écoute, tant mieux si on mène 3-1 pour ce qui est du Canadien. Ceux qui l'écouteront en balado ben, vont dire « Ah ouais, c'était 3-1 pendant qu'il était épais, mais peut-être que le Canadien va avoir perdu, peut-être que le Canadien va avoir gagné 22-1. » Je ne sais pas.
Peut-être.
mais cool, si sérieusement, puis c'est à feu. Je regarde, c'est l'entraque. Fait que peut-être qu'il est assis à son banc puis qu'il est venu nous dire salut. Ça, ce serait insane, c'est Simon. Sérieux, c'est insane si tu fais ça. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. Je pense qu'en effet, Red Bull n'aura peut-être pas la saison dominante, ben, assurément n'auront pas la saison dominante qu'ils ont eue dans les deux premières de la réglementation. Là, je ne penserais pas qu'on ait ce genre de saison-là. J'ai l'impression que l'histoire va peut-être se répéter. Hein. Souvent, on fait « OK, c'est l'entraque, c'est ça. » C'est malade! Les gars nous écoutent du Sandbell. écoute, l'histoire va peut-être se répéter. Tu sais, après les... Oh, Jean-Mich, OK.
Ouais, je suis là.
Je t'avais perdu. l'histoire va peut-être se répéter parce que, bon, on a connu les quatre victoires de Sébastien Vettel par la suite. Ben là, il y a une écurie qui a commencé à prendre d'autres choses. Tu sais, souvent, c'est des phases en F1. On a une nouvelle réglementation qui s'en vient. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura des belles surprises. Pour l'amateur, ce qu'on veut, c'est un peu ce qui s'est passé la saison dernière, sans grande domination comme on a vu. Ça, les dominations, on veut rien savoir de ça. On veut du spectacle en course. Je pense que c'est ce que les gens attendent. Autre chose qu'on attend beaucoup, Jean-Michel, vendredi, sur les Netflix, semblerait qu'une belle sortie qui s'en vient, Drive to Survive.
Oh oui, on n'aura pas le choix de se faire un petit blitz d'écoute de semaine pour regarder ça encore une fois, pour nous monter le hype dans le tapis, comme on dit. Fait que ça va être...
Quel coup marketing!
Veux pas, il est... Puis plusieurs personnes qui nous en parlent, hein, qu'ils ont retrouvé ou ils se sont intéressés à la F1 à cause de la série Netflix. Puis tu sais, je fais une petite parenthèse cette semaine, je sais pas si vous avez entendu l'histoire de la famille Villeneuve là, qui veut récupérer des trucs de Gilles. Tu sais, je pense qu'on aime pas un peu ce qu'on est en train de faire du côté du musée Gilles Villeneuve avec un peu l'image de Gilles. On se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent ça, mais peut-être que la famille n'a pas donné son accord. Fait que tu sais, on pense qu'on veut mettre un peu d'ordre là-dedans puis essayer de rapatrier tout ça. Puis le parallèle qu'on faisait, c'est que je veux pas avec ces séries-là, tu sais, Ayrton Senna, c'était tranquille là, depuis un bout de temps. Mais depuis la série, hey, là, ils refont des casquettes bleues de la banque brésilienne. Ben oui. Puis là, écoute, c'est un hype fou par rapport.
Ils ont sorti des pop, là, c'est ça, l'espèce de petit bonhomme à grosse tête. Là. On a un chum dans le groupe qui a envoyé ça. Il y a mon ami Sly du côté de l'entrepôt du hockey qui m'a dit, hey, check ce qu'on vient de recevoir. Absolument. C'est un pop de une fois, il est dans Lotus, puis l'autre, ben, c'est avec son soute rouge. Donc, je pense que, ben, on a bien compris la nostalgie. Et Senna, Christy, que c'était bien fait. C'était tellement magnifique comme série. Mais t'as raison.
Je sais pas si vous avez regardé la Making of aussi, là, mais c'est capoté de voir que tout a été tourné à la même place. Ils ont recréé la ligne de départ de Monaco, les scènes de voiture s'étaient filmées avec des ventilateurs puis de l'eau qui ruisselle. C'était complètement fou, capoté. Là. C'était vraiment...
Et un souci du détail des vraies archives, c'était les mimiques, tout ça. Écoute, c'était du pur génie.
Les personnages étaient bien faits. À l'impros, ça ressemblait.
Nicky Dada.
Ron Dennis aussi, l'ancien manager de McLaren. Pour vrai, là, moi, j'ai adoré. T'sais, j'ai écouté quelques entrevues après dans l'impros qui disaient il y a peut-être certaines affaires qui ne sont pas tout à fait exactes, mais ils n'ont jamais dit qu'ils faisaient un documentaire. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être des petites nuances, mais c'était vraiment cool. Puis je vais juste, mettons, aller sur ce qu'Anthony disait, c'est qu'effectivement ça, dans le fond, c'est l'héritage de Gilles vraiment qu'on veut sauvegarder. T'sais. Là, je pense que Mélanie, la sœur de Jacques, était allée. Puis là, ça a l'air que pour ramasser de l'argent, il y a un genre de comptoir U-Haul qui a été aménagé dans le musée. T'sais, ça fait BS. Là. Ça fait...
Voler aussi.
Mais c'est ça qu'ils ont dit. Non. Vous faites voler un bronze, puis il n'y a pas de caméra qui surveille ça. Là. C'est...
Excuse-moi.
Ça fait un peu boboche pas mal, là.
Tu te fais voler un bronze. Des fois, tu te fais voler quelqu'un qui est parti avec un pamphlet. S'il est parti avec une paire de gants, il a été bon. Ils sont fait voler un bronze.
Ils sont partis avec la statue pour aller à faire fondre. Il faut être sans cœur.
D'un, on cautionne pas le vol, là. On s'entend là-dessus, mais j'avoue que ça fait un peu boboche. Étienne, je crois qu'il est de se... Peut-être es-tu dans ce bout-là, Étienne? Ça se peut-tu? En tout cas, il dit le musée est fermé pour une période indéterminée.
Oui, parce qu'il y a des huissiers qui sont allés chercher des trucs qui appartenaient à la famille. Mais le musée dit que c'est à peu près 5% de la collection. Oui. Fait que c'est pas si pire.
Non,
effectivement, là, comme Anthony en rajoute aussi, là, on dirait qu'on commence à découvrir certaines affaires par rapport au musée. Fait que peut-être que ce serait peut-être mieux que la famille aille de sa propre initiative, mais tu sais, en même temps, eux, à Berthierville, ils tiennent ça à bout de bras chaque année avec des campagnes de financement, avec des ventes aux enchères, tu sais, fait que... Il faudra peut-être pas lui donner une claque d'en face non plus, là, mais en tout cas.
Non, c'est ça. Excuse Étienne, je me souvenais plus exactement de Ramon Berthier. Écoute, ma géographie québécoise avait fait défaut.
L'autre côté
C'est ça, c'est l'autre base. Dans le même coin. Tout dans ce coin-là, à peu près le même parallèle. Non, je blague, mais en effet, puis tu sais, je pense qu'Anthony aime beaucoup ce dossier-là aussi, là, mais il mentionne quelque chose d'assez intéressant. On pourrait-tu faire quelque chose près du circuit qui porte son nom? Non, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus... je sais pas, tu sais, mettons quand tu vas au Centre Bell, il y a des trucs le fun du Canadien. Tu sais, l'héritage devrait peut-être être mieux entretenu, malgré que, tu sais, c'est une piste de course pour un événement des F1. Le reste du temps, c'est une cyclable. Ouais. Mais écoute, c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, Michel Marquet, que le bâtiment est désuet. Puis en effet, j'ai vu des reportages télé, puis on parlait de la poussière et tout ça, puis du U-Haul, là, mais tu sais, c'est vrai, c'est une légende du sport québécois et du sport automobile. C'est the légende, tu sais, Gilles Villeneuve, écoute, je veux dire, on ne l'a pas vu courir, puis on est comme, wow, on voit, c'est Gilles, c'est avec Ferrari, hein, chaque année, quand c'est son anniversaire, Ferrari fait un petit quelque chose. Tu sais, c'est vraiment une légende, dans le fond, c'est un...
Maranello,
il manque peut-être un petit peu d'un petit quelque chose pour ça. Puis c'est vrai que des fois, on a tendance à comme oublier notre histoire. Puis après ça, on fait comme, c'est vrai qu'on a peut-être laissé ça au vidange pendant un petit bout. On trouverait peut-être ça intéressant, en effet, Jean-Michel, qu'on fasse de quoi avec ça.
Ben, ça serait intéressant. Puis, tu sais, un point que j'entendais cette semaine aussi qui est vrai, puis ben, ça vient de son frère, Jacques Villeneuve, pas le neveu, mais Jacques Villeneuve, le frère de Gilles.
Oui.
Il dit, moi, Gilles, tu sais, il dit, je veux pas avoir de quoi à Montréal, ou, tu sais, Gilles, à chaque fois que tu l'interviewais, ouais, vous êtes pilote canadien. Non, moi, je viens de Berthierville. Lui, c'est Berthierville. Là. Fait que, tu sais, lui, il trouve que ça serait important que si on en refait quelque chose, ben, ça soit dans son patelin, parce que lui, il se faisait un devoir de dire qu'il venait de Berthierville. Tu sais, fait que pour lui, c'était très important, sa communauté. Fait que, tu sais, à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais c'est ça, il y a des démarches qui sont en cours de la famille Villeneuve. Tout le monde est d'accord, Joanne. Ensuite de ça, Jacques et Mélanie, sa sœur. Donc, on n'a pas dit si on a consulté son frère. Je ne penserais pas, là. Malheureusement, c'est pas... C'est pas l'amour fou, je pense, entre l'oncle et le neveu. Puis je fais une petite parenthèse comme ça. Écoutez, cette semaine, j'ai écouté, il y a un podcast, je sais pas si vous l'avez vu, là, avec un ancien pilote de motocross, là. Puis écoute, à chaque semaine, il reçoit des invités. Il a reçu Jacques Villeneuve, l'oncle, il a reçu Andrew Ranger. Ah, ouais. Pendant une heure et quart, là, si vous avez, j'allais dire du temps à perdre, mais en fait, si vous, des fois, vous voulez vous écouter quelque chose, puis vous avez un petit moment de libre, c'est vraiment... super intéressant. Donc, pendant une heure de temps, là, entendre mon oncle Jacques nous raconter des anecdotes. Là, il en a fait des affaires, là, pour vrai. Là. Puis, écoute, il est fini. Il n'y a pas un os de corps qui n'est pas cassé dans le corps. Puis là, il dit qu'il prend sa retraite de la motoneige. Puis écoute, ce gars-là, il est pas crevable. Là, mais pour vrai, c'est Ben Milo, je pense. Que c'est,
oui, Ben Milo. Hein.
Ça s'appelle... je vais essayer de vous le trouver. Là, mais il y a plusieurs... Ça s'appelle Gasoline Podcast, si vous avez la chance d'aller l'écouter. J'ai écouté Andrew Ranger cette semaine qui parlait justement de son passage en IndyCar, comment sa carrière a commencé, après ça, comment il s'est ramassé en NASCAR, son chalet, c'est Mont-Valin, sa passion pour la motoneige et tout. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant d'aller écouter ce genre de truc-là. Puis des fois, ils ont des petits invités spéciaux qui arrivent, là, comme dans celui de Jacques, il y avait Bertrand Godin qui est venu compter deux, trois anecdotes qui s'étaient passées avec le bonhomme à sa mère là, dans les débuts de Bertrand Godin. Fait que c'est super intéressant.
Très cool.
De suivre ça, ouais.
Ah ouais, écoute, gars, on est tellement rendu big comme podcast qu'on fait de la pub pour d'autres podcasts. C'est saison 6 quand même du paddock.
Oui, saison 6,
ouais,
c'est important.
Saison
de
6,
souligner.
C'est fou, ça, raide, ouais.
Ça va vite, puis écoute, on a des partenaires qui sont avec nous, là, l'autre gauche de l'écran.
Ouais, c'est ça, ben,
donc,
là,
Opéra, Habitat Boréal, qui sont avec nous depuis quelques années. Je pense qu'on s'enligne sur la troisième année de partenariat avec...
Habitat Boréal, je pense que oui.
Opéra, deuxième année.
Ouais,
c'est super cool. Puis écoute, c'est des gens qui, à notre dernier épisode, nous ont déjà dit qu'ils revenaient avec nous. Fait que ça, pour nous... C'est un tracas de moins, veut pas de penser à ce qui s'en vient. Parce que, comme vous l'avez vu depuis l'année passée, ben là, on a investi un petit peu dans
ouais, gros nouveau micro.
Ouais, dans la diffusion et tout. Fait, c'est quand même. C'est comme n'importe quoi. Tout ce qui est cool puis tout ce qui est technologique, c'est pas gratis, malheureusement.
Non, c'est ça.
Fait que grâce à nos partenaires, ben, on est capable de vous offrir un produit qui est toujours amélioré. D'ailleurs, de mon côté, je vais travailler pour le prochain épisode aussi. Là, on nous a parlé de petits bugs au niveau
de la
caméra. Fait que ça se pourrait que je donne deux, trois petits coups de poing à mon ordinateur.
On a été en live sur TikTok.
Je sais pas si ça a fonctionné.
Oui, il y a quelqu'un qui nous a dit... C'était les essais pré-saison, en effet.
OK.
Ouais. Mais à part ça, écoute, je sens pas avoir grand-chose à dire, là.
Ouais, ben...
Ouais, mais oui, on a été là, mais je te dirais que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment pas... On se pitche pas dans les murs avec TikTok, mais ça semble, ça l'active un peu. Mais...
Oui, on a été là, mais...
Non, c'est beau, ça. Je t'allais voir. OK, fait que, ouais, on est en... On va se mettre là, ça coûte rien, pareil. Fait que c'est ça. OK. On est sur TikTok aussi. Des fois, on va mettre des petits trucs. Peut-être pas pour cet épisode-ci, là, mais on va mettre des trucs sur le réseau social bien populaire. Là. Voilà. Hey, on pensait, Jean-Michel et moi, au début, on le fait comme ouais, Chris, on n'a rien à dire ben sur ces essais de pré-saison pour faire plaisir à la personne qui nous a commenté. Les essais de pré-saison.
Ah, ok, c'est ok, c'est ok, c'est cette personne-là, genre, le seul commentaire qu'elle a trouvé à dire, c'est qu'on a dit hivernaux au lieu de pré-saison, c'est ça?
Ben, c'est TikTok, hein? Le monde, c'est TikTok. Ouais, le monde, il perd une coupe de le QI, il baisse pas mal, sur TikTok.
Ouais, c'est ça. C'était un essai. Ben, c'est ça qu'on s'est
ouais,
dit. On va l'essayer, on va voir quel genre de clientèle on peut avoir, puis on va prendre une décision par la suite.
Non, c'est ça. Fait que, voilà, ben, écoute, à moins de... Je sais pas les autres, c'est quoi. Je te dirais...
C'est une première, tu sais, peut-être que ça va...
Ouais, ouais.
En tout cas, essayons-le, hein. On perd absolument rien.
Non, 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 c'est ça, exactement.
On peut juste gagner d'autres fans de Formule 1. Notre but, c'est juste, nous autres, de rassembler le plus de fans possible. Puis on le répète encore une fois, on est des amateurs...
Oui.
Jase avec d'autres amateurs. On n'est pas
exactement.
Des on n'a pas la prétention d'être des professionnels. Donc, nous, on est vraiment là pour jaser. Fait que je pense que c'est
oui.
ce qui fait notre succès aussi depuis quelques années.
Exactement. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur votre plateforme de balado préférée. En tout cas,
yes.
c'est encore actif, ça, Jean-Michel.
Oui, Audioboom okay, est enfin. Toujours là
Audio
pour nous uploader dans toutes les plateformes qui existent.
Voilà.
Peut-être qu'on va faire un petit épurage aussi de ça en cours de saison. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être publié à 12 places. Des fois, il y a des places que c'est assez marginal pour le coup que ça implique. Là.
Tu sais jamais que... si à Deezer, il y a du monde là-dessus.
Peut-être, effectivement. Fait qu'écoute, ça, il n'y a pas de problème. Puis écoute, on va reparler sur notre Facebook cette semaine, peut-être
ouais.
de ce qui s'en vient lundi prochain.
Oui, eh bien écoute, je vais remercier tous les gens d'avoir été là ce soir. Salut Michael qui est là, malade, les gars, toujours aussi intéressant. Merci Maxime qui est arrivé vers la fin du podcast également. Donc, je vous rappelle, si vous voulez l'écouter en audio, ça se passe sur votre plateforme de balado préférée. Vous cherchez le podcast Le Paddock, vous allez nous trouver. Sinon, sur Facebook, vous pouvez réécouter la vidéo. Ça, c'est des choses qui se font quand même bien. Je vous dirais également merci à Habitat Boréal et Opéra qu'on a salués qui sont là pour la prochaine saison. On sera là les lundis suivants les courses. Donc, les prochains épisodes qui s'en viennent, là, on va avoir pour une course, le premier va avoir lieu le 17, OK? Donc ça, on nous suit là-dessus. Sauf que la semaine prochaine, on a un épisode spécial. Elle s'appelle Christine Laramé. C'est quelqu'un qui nous suit. C'est une auditrice du paddock. Et également, en plus d'être auditrice du paddock et tripée sur la F1, Christine est auteure. Et elle a sorti un deuxième livre, une deuxième romance qui parle. L'histoire, c'est de la F1. Et ma copine m'en parle, puis tout ça. Puis là, des fois, elle écrit à Christine, puis Christine, elle nous suit. Fait que je me suis dit, je vais jaser avec, puis tout ça, puis c'est le fun. Puis elle est comme avec une gang de filles qui tripent sur la F1. Puis je le dis depuis des années, avec Drive to Survive, avec tout ça, les filles tripent sur la F1. Je ne sais pas comment qu'on a réussi côté marketing à attirer les femmes dans ce sport-là, mais elles sont très intéressées par ce sport-là. Puis Christy, ils en savent des fois pas mal plus que nous autres. Fait que ça va être le fun. À chaque fois qu'on reçoit une fille sur le podcast, c'est toujours le fun. Christine, qui est une auteure, et aussi quelqu'un qui nous suit, donc Christine Laramé. Dernier virage, elle en a fait un en 2024, mais également, elle en a sorti un qui est sorti justement vendredi dernier, le 28 février. Donc, bien content de la recevoir, Christine. Donc, épisode spécial. Lundi prochain, on va jaser avec une auteure qui fait de la romance sur la F1. Je trouve ça complètement le fun. Puis on va jaser aussi de sa passion pour la Formule 1. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là pour le premier épisode. Oh yeah! First of a coupe, parce qu'il va en avoir une coupe cette saison, de la saison 6 du paddock. Donc, Jean-Michel, un gros merci.
Hey, ça fait plaisir. Le shakedown est fait. La glace est brisée
yes.
pour 2025. Fait que bonne soirée à tous. Bye bye.
Attention, c'est pas des essais hivernaux, là.
Salut.